thème, conséquence de l'abdication de son père, Akihito, en mai dernier, du jamais vu depuis 2 siècles. Ces cérémonies fastueuses doivent durer jusqu'en novembre. Lui n'est pas à Tokyo, il est arrivé à Mayotte. Emmanuel Macron est en déplacement dans le 101e département français. Première étape de sa visite dans l'océan Indien, qui va le mener aussi sur l'île de Grande Glorieuse et à La Réunion. Un déplacement de 4 jours au cours duquel il va aborder l'immigration.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Suspect de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas ».
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Depuis la parution de son premier succès de librairie, Hygiène de l'assassin, la romancière belge Amélie Nothomb répond aux lettres de ses lecteurs avec attention. Dans son dernier roman, Une forme de vie, c'est le prétexte narratif qu'elle a choisi. En effet, la romancière répond aux lettres d'un soldat américain, Melvin, qui participe à la Deuxième Guerre d'Irak. Ce dernier, qui connaît toute l'œuvre de la romancière, la pense seule capable de comprendre son attitude face à cette horreur de tous les instants. Le refuge dans la boulimie, la volonté de devenir de plus en plus obèse, seul mode compensatoire à la désespérance d'être. Il s'ensuit une correspondance entre l'auteur et Melvin que la narratrice commente. C'est donc à 3 voix et durant 2 émissions que nous vous proposons de commencer à lire cette étonnant roman épistolaire.
Ce matin-là, je reçus une lettre d'un genre nouveau.
Chère Amélie Nothomb, je suis soldat de 2e classe dans l'armée américaine. Mon nom est Melvin Maple. Vous pouvez m'appeler Mel. Je suis posté à Bagdad depuis le début de cette fichue guerre, il y a plus de 6 ans. Je vous écris parce que je souffre comme un chien. J'ai besoin d'un peu de compréhension, et vous, vous me comprendrez, je le sais. Répondez-moi. J'espère vous lire bientôt. Melvin Maple, Bagdad, le 18 décembre 2008.
Je crus d'abord à un canular. À supposer que ce Melvin Maple existe, avait-il le droit de m'écrire de telles choses? N'y avait-il pas une censure militaire qui n'eût jamais laissé passer le fucking devant war? J'examinai le courrier. Si c'était un faux, l'exécution en était remarquable. Une timbreuse américaine l'avait affranchi, un cachet irakien l'avait estampillé. ce qui faisait le plus vrai était la calligraphie. Cette écriture américaine de base, simple et stéréotypée, que j'avais tellement observée lors de mes séjours aux États-Unis. Et ce ton direct, d'une légitimité indiscutable. Quand je ne doutais plus de l'authenticité de la missive, je fus frappée par la dimension la plus incroyable d'un tel message. S'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'un soldat américain vivant de l'intérieur cette guerre depuis le début souffre comme un chien, il était hallucinant qu'il me l'écrive à moi. Comment avait-il entendu parler de moi? Certains de mes romans avaient été traduits en anglais et avaient eu aux États-Unis un accueil plutôt confidentiel 5 années auparavant. J'avais déjà reçu sans surprise des plis de militaires belges ou français qui le plus souvent demandaient des photos dédicacées. Mais un deuxième classe de l'armée américaine basée en Irak, cela me dépassait. Savait-il qui j'étais? À part l'adresse de mon éditeur correctement libellée sur l'enveloppe, rien ne le prouvait. J'ai besoin d'un peu de compréhension et vous, vous me comprendrez, je le sais. Comment pouvait-il savoir que moi, je le comprendrais? À supposer qu'il ait lu mes livres, ceux-ci étaient-ils les témoignages les plus flagrants de la compréhension et de la compassion humaine? Tant qu'à être une marraine de guerre, le choix de Melvin Maple me laissait perplexe. D'autre part, avais-je envie de ses confidences? Tant de gens déjà m'écrivaient leurs peines en long et en large. Ma capacité à supporter la douleur d'autrui était au bord de la rupture. De plus, la souffrance d'un soldat américain, cela prendrait de la place. Contiendrais-je un tel volume? Non. Melvin Maple avait sûrement besoin d'un psy. Ce n'était pas mon métier. Me mettre à la disposition de ses confidences serait lui rendre un mauvais service, car il se croirait dispensé de la thérapie dont 6 années de guerre avaient dû engendrer la nécessité. Ne pas répondre du tout m'eût paru un rien salaud. Je trouvais une solution médiane. Je dédicassais aux soldats mes livres traduits en anglais, je les empaquetais et les lui postais. Ainsi, il me semblait avoir fait un geste pour le sous-fifre de l'armée américaine et j'eus ma conscience pour moi. Plus tard, je songeais que l'absence de sanctions militaires s'expliquait sans doute par la récente élection de Barack Obama à la présidence. Certes, il n'entrerait en fonction que plus d'un mois après, mais ce bouleversement devait déjà produire ses effets. Obama n'avait cessé de prendre position contre cette guerre et de déclarer qu'en cas de victoire démocrate, il rappellerait les troupes. J'imaginais le retour imminent de Melvin Maple dans son Amérique natale. Mes fantasmes le voyaient arriver dans une ferme confortable, entourée de champs de maïs, ses parents lui ouvrant les bras. Cette idée acheva de m'apaiser. Comme il n'aurait pas manqué d'emporter mes livres dédicacés, j'aurais indirectement contribué à la pratique de la lecture dans la Corn Belt. Deux semaines ne s'étaient pas écoulées quand je reçus la réponse du deuxième classe.
Chère Amélie Nothomb, merci pour vos romans. Vous voulez que j'en fasse quoi? Happy New Year, Melvin Maple, Bagdad, le 1er janvier 2009.
Je la trouvais un peu raide. Légèrement énervée, j'écrivis aussitôt cette lettre.
Cher Melvin Maple, je ne sais pas. Peut-être rééquilibrer un meuble ou surélever une chaise? Ou les offrir à un ami qui a appris à lire? Merci pour vos vœux, autant de ma part. Amélie Nothomb, Paris, le 6 janvier 2009.
Je postais ce billet en fulminant contre ma sottise. Comment avais-je pu espérer une autre réaction de la part d'un militaire ? Il répondit par retour du courrier.
« Chère Amélie Nothomb, sorry, j'ai du mal m'exprimer. Je voulais dire que si je vous avais écrit, c'est parce que j'avais déjà lu tous vos livres. Je n'allais pas vous embêter avec ça. C'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé. Ça allait de soi. Mais je suis content de les avoir en double et avec vos dédicaces. Je pourrais les prêter aux copains. Désolé de vous avoir dérangé. Sincerely, Melvin Maple, Bagdad, le 14 janvier 2009. »
J'écarquillais les yeux. Ce type avait lu tous mes livres et établissait un lien de cause à effet entre cette donnée et le fait qu'il m'écrive. Cela me plongea dans un abîme de réflexion. J'essayais de comprendre en quoi mes romans avaient pu inciter ce soldat à s'adresser à moi. D'autre part, j'étais ce personnage ridiculement ravi, l'auteur qui découvre que quelqu'un a tout lu de lui. Que ce quelqu'un fût un deuxième classe de l'armée américaine me combla encore davantage. Cela me donna l'impression d'être un écrivain universel. J'éprouvais une grotesque bouffée d'orgueil. Dans les meilleures dispositions, je rédigeais cette épître.
« Cher Melvin Maple, désolé pour ce malentendu. Je suis vraiment touché que vous ayez lu tous mes livres. J'en profite pour vous envoyer mon dernier roman traduit en anglais, Tokyo Fiancé, qui vient de paraître aux États-Unis. Oh, le titre me navre. Cela fait très film avec Sandra Bullock. Mais l'éditeur m'a affirmé que ni d'Ève ni d'Adam ne risquaient pas de trouver meilleure traduction. Du 1er au 14 février, je serai dans votre beau pays pour en assurer la promotion. Aujourd'hui, Barack Obama devient le président des États-Unis. C'est un grand jour. J'imagine que vous allez bientôt rentrer et je m'en réjouis. Amicalement, Amélie Nothomb, Paris, le 21 janvier 2009. »
Pendant ma tournée américaine, je ne manquais pas de répéter à qui voulait l'entendre que je correspondais avec un soldat basé à Bagdad qui avait lu tous mes livres. Les journalistes en furent favorablement impressionnés. Le Philadelphia Daily Report titra l'article « US Army Soldier reads Belgian writer Amélie Nothomb ». Je ne savais pas au juste de quelle aura cette information me couronnait, mais l'effet semblait excellent. De retour à Paris, m'attendait une montagne de courriers, dont deux plis d'Irak.
Chère Amélie Nothomb, merci pour Tokyo Fiancé. Ne soyez pas navré, le titre est bien. J'adore Sandra Bullock. Je me réjouis de le lire. Vous savez, j'aurai le temps. Nous n'allons pas rentrer tout de suite. Le nouveau président a dit que le retrait des troupes prendrait 19 mois. Et comme j'étais le premier arrivé, vous verrez que je serai le dernier parti. C'est l'histoire de ma vie. Mais vous avez raison, Barack Obama est l'homme qu'il faut. J'ai voté pour lui. Sincerely, Melvin Maple, Bagdad, le 26-01-2009. Chère Amélie Nothomb, j'ai adoré Tokyo Fiancé. J'espère que Sandra Bullock acceptera le rôle, ça serait formidable. Quelle belle histoire, j'ai pleuré à la fin. Je ne vous demande pas si ça s'est vraiment passé, c'est tellement authentique. Comment c'était en Amérique? Sincerely, Melvin Maple, Bagdad, le 7 février 2009.
Je répondis aussitôt.
« Cher Melvin Maple, je suis si contente que vous ayez aimé mon livre. Cela s'est très bien passé dans votre beau pays. J'ai parlé de vous partout. Regardez cet article du Philadelphia Daily Report. Malheureusement, je ne pouvais pas préciser aux journalistes d'où vous veniez. Je sais si peu qui vous êtes. Si vous y consentez, dites-moi un peu plus sur vous. Amicalement, Amélie Nothomb, Paris, le 16 février 2009.
Je préférais ne rien commenter sur un hypothétique film avec Sandra Bullock. J'y avais fait allusion comme une blague, ne m'attendant pas à être prise au sérieux. Melvin Maple risquait d'être déçu s'il découvrait que ce film avait peu de chances d'exister. Il ne faut pas désespérer la Corn Belt.
Chère Amélie Nothomb, l'article du Philadelphia Daily Report m'a fait très plaisir. Je l'ai montré aux copains. Ils veulent tous vous écrire maintenant. Je leur ai dit que votre tournée américaine était finie et que ça ne vaut plus la peine. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux dans la presse. Vous voulez que je me présente ? J'ai 39 ans, je suis l'un des plus vieux à mon échelon. Je suis entré dans l'armée tard, à 30 ans, parce que je n'avais plus de perspective d'avenir. Je crevais de faim. Mes parents se sont rencontrés en 1967, pendant le fameux Summer of Love. Pour eux, mon enrôlement a été une honte. Je leur ai dit qu'en Amérique, quand on crève de faim, il n'y a rien d'autre à faire. « Tu aurais pu venir chez tes vieux quand même », ont-ils répondu. Moi, j'aurais trouvé honteux d'aller squatter chez mes parents qui vivotent dans la banlieue de Baltimore, où ils tiennent une station-service. C'est là que j'ai grandi, et je n'avais aucune envie d'y retourner. Baltimore, ça n'est bien que pour le rock. Malheureusement, je n'ai pas de talent pour ça. Avant mes 30 ans, j'avais des idéaux, des rêves, et j'ai essayé de les atteindre. Je voulais devenir le nouveau Kerouac, mais j'ai eu beau parcourir les routes sous Benzédrine, je n'ai pas écrit une ligne valable. Je me suis rempli d'alcool pour devenir le nouveau Bukowski, et là, j'ai touché le fond. Bon, j'ai compris que je n'étais pas un écrivain. J'ai tenté la peinture, catastrophe. Le dripping, c'est pas aussi facile qu'on croit. J'ai voulu faire l'acteur, ça n'a rien donné non plus. J'ai vécu dans la rue. Je suis content d'avoir connu ça. Dormir dehors. Ça m'a beaucoup appris. En 1999, je me suis enrôlé. J'ai dit à mes parents qu'il n'y avait aucun risque, que la dernière guerre était trop récente. Ma théorie était que la Gulf War de 1991 avait calmé mon pays pour longtemps. L'armée en temps de paix, ça me paraissait cool. Bon, il y avait des choses qui se passaient en Europe de l'Est, en Afrique, il y avait toujours Saddam Hussein en Irak. Mais je ne voyais rien d'énorme se profiler à l'horizon. Comme quoi, j'ai pas le sens politique. La vie militaire n'avait pas que des bons côtés. Je l'ai su tout de suite. Ces exercices, cette discipline, ces hurlements, les horaires, ça ne m'a jamais plu. Enfin, je n'étais plus clochard. C'était important. J'avais compris mes limites. Dormir dans le froid et la peur en était une. La faim en était une autre. À l'armée, on mange. La nourriture est bonne, abondante et gratuite. Le jour de mon enrôlement, j'ai été pesé. 55 kilos pour 1m80. Je crois qu'il n'était pas dupe quant au motif réel de ma conscription. Je sais que je suis loin d'être le seul à devenir soldat pour cette raison. Sincerely, Melvin Maple, Bagdad, le 21 février 2009.
Je m'étais fourvoyée avec la Corn Belt. La banlieue de Baltimore, c'était beaucoup plus dur. Baltimore, ce n'était pas pour rien que le cinéaste John Waters, le pape du Bad Taste, y situait tous ses films. C'était une ville qui avait l'air d'une moche banlieue. Alors, la banlieue de Baltimore, j'osais à peine imaginer à quoi cela ressemblait. Le 11 septembre 2001, le pauvre Melvin Maple avait dû se rendre compte de son erreur. Non, l'époque n'était pas à la paix. Sa faim allait lui coûter cher. ¶¶
Cher Melvin Maple, merci pour votre très intéressante lettre. Je l'ai beaucoup aimée. J'ai l'impression de mieux vous connaître. N'hésitez pas à me raconter la suite ou d'autres parties de votre vie, comme vous voulez. Amicalement, Amélie Nothomb, Paris le 26 février 2009.
Cher Amélie Nothomb, à l'armée, on gagne un peu d'argent. Avec mon salaire, j'ai acheté des livres. Par hasard, j'ai lu le premier des vôtres à avoir été traduit en américain, « The Stranger Next Door ». J'ai accroché. Je me suis procuré tous vos romans. C'est difficile à expliquer, mais vos bouquins me parlent. Si vous me connaissiez mieux, vous comprendriez. Ma santé se détériore. Je suis très fatigué. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 2 mars 2009.
Ce billet me plongea dans l'inquiétude. J'imaginais qu'il ne manquait pas de raison d'être malade en Irak. L'emploi militaire de substances toxiques, le stress, voire quelques blessures au combat. Par ailleurs, je lui avais déjà demandé de m'en raconter davantage sur lui, je ne pouvais quand même pas le supplier. Était-ce sa santé qui l'en avait empêché? Il me semblait sentir une réticence d'un autre ordre. Je ne savais quelle attitude adopter et ne répondis pas. Bien m'en prie, je reçus une nouvelle lettre.
Chère Amélie Nothomb, je vais un peu mieux et trouve la force de vous écrire. Il faut que je vous explique. Je souffre d'un mal de plus en plus courant dans les troupes américaines envoyées en Irak. Depuis le début de l'intervention, en mars 2003, le nombre de malades a doublé et la proportion ne cesse d'augmenter. Sous l'administration Bush, on cachait notre pathologie, vue comme dégradante pour l'image de l'armée américaine. Depuis Obama, les journaux commencent à parler de nous, mais sur la pointe des pieds. Vous imaginez sûrement une maladie vénérienne? Vous vous trompez. Je suis obèse. Ce n'est pas ma nature. Enfant, adolescent, j'étais normal. Adulte, je n'ai pas tardé à devenir maigre à cause de la pauvreté. Je me suis enrôlé en 1999 et j'ai grossi très vite, mais pas de façon choquante. J'étais seulement un squelette affamé à qui on donnait enfin la possibilité de manger. En un an, j'ai atteint ce qui devait être mon poids normal de soldat musclé, 80 kilos. Je m'y suis maintenu sans effort jusqu'à la guerre. En mars 2003, j'ai fait partie du premier contingent envoyé en Irak. Sur place, les problèmes ont commencé aussitôt. J'ai connu mes premiers vrais combats, avec les tirs de roquettes, les chars, les corps qui explosent à côté de vous, et les hommes que vous tuez vous-même. J'ai découvert la terreur. Il y a des gens courageux qui supportent, moi pas. Il y a des gens à qui ça coupe l'appétit, mais la plupart, dont moi, réagissent à l'opposé. On revient du combat choqué, éberlué d'être vivant, épouvanté. Et la première chose qu'on fait après avoir changé de pantalon, on souille le sien à tous les coups, c'est de se jeter sur la bouffe. Plus exactement, on démarre par une bière, encore un truc de gros la bière. On écluse une ou deux canettes, et puis on attrape le consistant. Les hamburgers, les frites, les peanut butter and jelly sandwiches, l'apple pie, les brownies, les glaces, on peut y aller à volonté. On y va. C'est pas croyable ce qu'on peut avaler. On est fou. Quelque chose est cassé en nous. On ne peut pas dire qu'on aime manger comme ça. C'est plus fort que nous. On pourrait se tuer de nourriture. C'est peut-être ce qu'on cherche. Au début, certains vomissent. J'ai essayé. Je n'ai jamais pu. J'aurais bien voulu. On souffre tellement. On a le ventre au bord de l'explosion. On se jure de ne jamais recommencer, c'est trop douloureux. Le lendemain, on doit retourner au combat. On participe à des horreurs pires que la veille. On ne s'habitue pas. On a des coliques monstres. Sans cesser de tirer et de courir, on voudrait que le cauchemar s'arrête. Ceux qui en reviennent ne sont que du vide. Alors on se remet à la bière et à la bouffe et l'estomac devient peu à peu si énorme qu'on n'a plus mal. Ceux qui vomissaient ne vomissent plus. On grossit comme des porcs. Chaque semaine, on doit demander des tenues de la taille au-dessus. Ça nous gêne, mais personne n'est capable d'inverser la tendance. Et puis, ce n'est pas notre corps. Cette histoire arrive au corps de quelqu'un d'autre. Cette nourriture, nous la balançons dans le ventre d'un inconnu. La preuve, c'est que nous le sentons de moins en moins. Ça nous permet d'en avaler plus. Ce que nous éprouvons n'est pas du plaisir, mais un affreux réconfort. Le plaisir, je connais. Ce n'est pas ça. Le plaisir, c'est quelque chose de grand. Par exemple, faire l'amour. Ça ne m'arrivera plus. D'abord parce que personne ne voudra de moi. Ensuite, parce que je n'en suis plus capable. Comment mouvoir, si peu que ce soit, un corps de 180 kilos? Vous vous rendez compte? Depuis que je suis en Irak, j'ai pris 100 kilos. 17 kilos par an. Et ce n'est pas fini. J'en ai encore pour 18 mois. Le temps de prendre 30 kilos. À supposer que de retour au pays j'arrête de grossir, je suis comme de nombreux soldats américains, un boulimique, incapable de vomir. Dans ces conditions, maigrir est la dernière chose envisageable. 100 kilos, c'est une personne énorme. Je me suis enrichi d'une personne énorme depuis que je suis à Bagdad. Puisqu'elle m'est venue ici, je l'appelle Scheherazade. Ce n'est pas gentil pour la véritable Scheherazade, qui devait être une svelte créature. Je préfère néanmoins l'identifier à une personne plutôt qu'à deux, et à une femme plutôt qu'à un homme, sans doute parce que je suis hétérosexuel. Et puis, Scheherazade, ça me convient. Elle me parle des nuits entières. Elle sait que je ne peux plus faire l'amour, alors elle remplace cet acte par de belles histoires qui me charment. Je vous confie mon secret, c'est grâce à la fiction de Scheherazade que je supporte mon obésité. Si les gars savaient que je donne à ma graisse un nom de femme, je ne dois pas vous faire un dessin sur ce qui m'arriverait. Mais vous, je sais que vous ne me jugerez pas. Dans vos livres, il y a pas mal d'obèses. Vous ne les montrez jamais comme des gens sans dignité. Et dans vos livres, on s'invente des légendes bizarres pour continuer à vivre, comme Scheherazade. J'ai l'impression que c'est elle qui écrit la lettre. Je ne parviens pas à l'arrêter. De ma vie, je n'ai rédigé un si long message. Ça prouve que ce n'est pas moi. J'ai horreur de mon obésité, mais j'aime Scheherazade. La nuit, quand mon poids oppresse ma poitrine, je pense que ce n'est pas moi, mais une belle jeune femme allongée sur mon corps. Lorsque je rentre à fond dans cette fiction, j'entends sa douce voix féminine qui murmure à mon oreille des choses ineffables. Alors, mes gros bras étreignent cette chair, et la conviction est si puissante qu'au lieu de sentir mon gras, je touche la suavité d'une amoureuse. Croyez-moi, à ces moments-là, je suis heureux. Mieux, nous sommes heureux, elle et moi, comme seuls des amants peuvent l'être. Je sais que ça ne me protège de rien. Mourir d'obésité, ça existe. Et puisque je vais continuer à grossir, ça va me tomber dessus. Mais si Scheherazade veut de moi jusqu'au bout, je mourrai heureux. Voilà. Scheherazade et moi, nous voulions vous raconter ça. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 5 mars 2009.
Cher Melvin Maple, merci pour votre stupéfiante missive que je viens de lire et relire avec ahurissement et émerveillement. Ce que vous m'écrivez me bouleverse. Plus j'y repense, plus je suis révoltée, sidérée et éblouie. Puis-je vous prier, Scheherazade et vous, de me raconter encore et encore cette histoire? Je n'ai jamais rien lu de pareil. Amicalement, Amélie Nothomb, Paris, le 10 mars 2009. Thank you. Comme dans les contes des mille et une nuits, nous interrompons ici notre lecture. Mais tel Scheherazade, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre ce récit d'Amélie Nothomb. Vous avez entendu dans les pauses musicales Ghost d'Albert Heller. Anne Prono,
Marie Béraille
et Yvan Davy.
Et à la technique, il y avait
Vincent Blanc,
Claude-Michel Pugnat. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.
Besoin d'une pause ? Pause classique, c'est le lundi, une semaine sur deux, de 21h à 22h, sur Radio G.
Still walk.